Rencontre avec l'auteur Philippe Ardo, une émission présentée par Arthur Chapuza
et Alain Mazin.
Théo Cabane, Andrea Boileau, avec un montage de Lucha Lavoignier et d'Anaïs Rive. Le vendredi 19 mai, pendant la matinée, nous sommes allés à la Comédie du Livre qui a eu lieu à Montpellier. Nous avons rencontré l'auteur Philippe Arnaud pour son livre Jungle Park. Nous l'avons interviewé dans une salle.
Comment l'envie d'écrire vous est-elle venue ?
Je crois que c'était 7 ans. Peut-être même avant, parce que j'ai commencé à lire tôt et j'ai tout de suite adoré ça. Et donc, dès que j'ai commencé à enchaîner les phrases, il fallait que j'enchaîne les paragraphes. Et donc, à l'époque, c'était... Bon, ça existe encore, la Bibliothèque Rose, mais à l'époque, c'était des livres avec des pages écrites très, très gros. Donc, on avait une espèce de bouquin comme ça, dont on avait l'impression qu'il était énorme. Et en fait, quand on savait bien lire avec les illustrations et tout, on lisait très vite. Et j'ai dû lire peut-être une dizaine de fois, Oui, et la voiture jaune, quand on me l'a offert. Et je me suis dit que j'aimerais beaucoup raconter des histoires comme ça. Et donc la naissance de l'envie de raconter des histoires en écrivant, je pense qu'elle vient de là. Après, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. J'ai continué à lire énormément. Là, je vous parle d'une époque où il n'y avait pas d'internet, pas d'ordinateur, où on allait lire des livres à la bibliothèque, où on les empruntait, où on nous les offrait. Mais en dehors de la lecture et d'écouter de la musique... Et éventuellement de temps en temps de regarder la télé, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc voilà, j'ai lu énormément de livres jusqu'à faire des études de lettres. Mais en revanche, pour ce qui est d'écrire, j'ai essayé d'écrire quand j'avais votre âge. J'ai continué un petit peu, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas terrible. Je suis revenu après, c'était toujours pas terrible. Et en fait, il m'a fallu 40 ans, presque, pour arriver à trouver mon écriture. Voilà, et donc j'ai commencé à écrire vraiment à... Enfin, c'est pas la seule raison, mais à 44 ans, je me suis dit, bah, là maintenant, faut y aller, parce que l'histoire que tu veux raconter, il n'y a personne qui pourra la raconter à ta place. Et c'est comme ça que ça a vraiment démarré, presque 40 ans après Oui, et la voiture jaune. Donc si vous avez une envie, vous voyez qu'elle est contrariée, ne perdez pas espoir, parce que quelquefois, bah, la vie repasse les plats, on va dire. La vie permet de rattraper les choses.
Quelles sont vos sources d'inspiration pour Jungle Park ?
Alors, ma première inspiration, c'est l'Afrique, jusqu'à présent. Voilà, parce que j'ai vécu 2 ans au Cameroun, parce que ma femme est camerounaise, parce que j'ai 3 enfants métis, parce que je suis très, très attaché à ce continent-là, et particulièrement au Cameroun. Et donc, c'est ma première source d'inspiration. Après, il y en a beaucoup. Je dirais le cinéma. Parce que je vais au cinéma 2 à 3 fois par semaine, que je vois beaucoup beaucoup de films et que ce sont des sources d'inspiration très importantes. Et après pour Jungle Park particulièrement, il y a Stephen King et il y a toute la science-fiction américaine que j'ai engloutie quand j'avais 13 ans. Entre 13 et 14 ans, j'ai englouti des monceaux de livres de science-fiction américaine des années 60, 70, Asimov, Van Vogt, Heinlein. Bon, c'était la génération des années 60, 70. Et ça m'a beaucoup... Je pense que c'est revenu. J'ai pas du tout repensé, je les ai pas relus, mais je pense que c'est ça qui est revenu pour Jungle Park, surtout. En fait, le point de départ du livre, c'est la phrase qui est au début. C'est une phrase que j'ai trouvée sur Internet. Et donc, c'était une phrase d'un monsieur qui est redevenu directeur d'Harvard, qui est une des plus grandes universités américaines ensuite, qu'il était avant et qui a été conseiller de 2 présidents américains. Donc, j'ai lu cette phrase. Enfin, ces phrases, c'était une déclaration qui a été faite dans une conférence. Donc, ces phrases qui disaient, en gros, qu'il fallait déverser les déchets toxiques occidentaux sur le continent africain. J'ai d'abord pensé que c'était un fake. J'ai cherché pendant toute une journée, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce qu'il y a un Gorafi américain ? Qui a pu inventer un truc pareil ? C'est-à-dire que je suis parti sur l'idée que c'était vraiment une blague, que c'était un canular. Et au bout d'une journée, j'ai pas fait que ça dans la journée, mais j'y suis revenu régulièrement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je me suis rendu compte que c'était pas un canular, que ce monsieur Lawrence Summers, il existait vraiment, qu'il avait vraiment dit ça, qu'il était vraiment conseiller de deux présidents américains successifs, dont celui qui précède le personnage que nous avons actuellement, et qu'il pensait vraiment ce qu'il avait dit. Et là, mon sang africain n'a fait qu'un tour. J'ai piqué une grosse colère en voyant ce qu'il dit. Et je me suis dit, ok, tu veux jouer à ça, et alors qu'est-ce qui se passe dans 30 ans ? Et c'est pour ça que c'est 2050. C'est parce que je me suis dit, au fond... Enfin, je me suis dit. En fait, l'histoire m'a, à ce moment-là, quand j'ai vraiment compris que c'était une vraie déclaration, que c'était une vraie idée, l'histoire m'est arrivée d'un coup dans la tête à 70 ou 80%. C'est-à-dire que tous les personnages de la partie africaine, toute l'histoire africaine dans la jungle, le réseau de résistants, les drones qui sont autour du continent africain et qui tuent tous les gens qui essayent d'en sortir, tout est arrivé d'un coup. J'ai dû me jeter sur une feuille pour noter le calendrier, en fait, les dates jusqu'en 2050, qui sont au début du roman. Et donc, cette phrase, au fond, je voulais dire, bah, ok, si on joue à ça, puisque c'était sérieux, cette déclaration, bah, qu'est-ce qui se passe dans 30 ans ? Dans 30 ans, parce que je savais que des lecteurs qui ont à peu près votre âge, eh bien, dans 30 ans, ils seront en plein âge adulte, ils seront en pleine activité adulte dans leur vie professionnelle, voilà, au sommet de leur vie d'adulte. Et donc, je me disais, c'est important de dire que ce n'est pas pour dans longtemps. C'est peut-être une dystopie, ce que j'écris, mais ça arrive. On est en route vers ça, au fond. Voilà, pourquoi 2050 ?
Est-ce que le personnage principal représente le conseiller politique qui voulait faire de l'Afrique une poubelle ?
Ah ben c'est une réponse. Le roman est une réponse à cette phrase-là. C'est une réponse... parce que si ça m'a mis en colère, c'est parce que je me suis dit, ce mec-là, d'abord c'est un raisonnement d'économiste, quand l'économie cesse de prendre l'humain en considération. C'est-à-dire que c'est un truc qui est complètement aveugle sur les conséquences humaines d'une décision. Et ensuite, je me suis dit, ce mec-là, il n'a jamais mis les pieds en Afrique, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne connaît pas le continent dont il parle. Il parle du continent le plus grand de tous les continents, hein, soit dit au passage, géographiquement parlant. Et il n'y connaît rien. C'est-à-dire qu'il parle de balancer des déchets toxiques dans un continent dont il ne connaît que des chiffres. Voilà. Donc c'était une réponse, oui. C'était une manière de dire, enfin même s'il lira jamais le livre, et voilà, mais c'était une manière de dire, bah non, l'Afrique, c'est pas ça, c'est pas une poubelle. Je suis désolé.
Combien de temps cela vous a pris pour écrire Jungle Park ?
J'ai eu l'idée en 2013. Donc c'est arrivé en 2013. Donc cette idée-là, comme ça, boum, d'un coup. Et en fait, j'étais plutôt parti, moi, sur une autre histoire. Et en fait, quand on écrit des histoires, il se passe parfois des choses bizarres. C'est-à-dire que vous avez tous les cas de figure possibles et imaginables. Vous avez une idée qui arrive d'un coup, là c'était le cas. Vous avez une idée que vous traînez pendant très longtemps parce que vous ne savez pas si elle est bonne. En fait, en gros, une idée, il faut qu'elle s'accroche. Elle s'accroche si elle revient. Si vous êtes en train de penser à autre chose et puis d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'il y a l'idée derrière qui est en train de vous dire, de travailler derrière. Et quelquefois, on rêve aussi. Où on se réveille, on se rend compte qu'on a rêvé de quelque chose qui se passait en rapport avec cette histoire. Et là, Jungle Park, je me suis rendu compte tout de suite, à partir du moment où j'ai noté ces choses, que c'était la prochaine histoire que j'allais raconter et que celle que j'avais prévue, il fallait que je la laisse de côté. Je suis en train de m'en occuper maintenant, cette histoire-là. Mais après, il se trouve que la vie fait que j'ai mis 2 ans à écrire Jungle Park parce que je l'ai écrit n'importe comment, Jungle Park. Mais autrement, je les ai écrits de manière très concentrée, très méthodique, pendant les grandes vacances, des matinées entières, etc. Jungle Park, je l'ai écrit n'importe comment, je l'ai écrit dans le tram bordelais, en allant travailler, en revenant du travail, 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à cause de ça. Et en même temps, je pouvais le faire, parce que c'était un roman d'aventure, et donc je savais ce qui se passait exactement, donc je pouvais raconter par morceaux, en fait. Et j'ai envoyé, pour finir la réponse, j'ai envoyé le manuscrit d'origine à mon éditeur en 2015, en août. Et il l'a lu en octobre. Et il m'a dit, formidable, seulement tu m'as envoyé un manuscrit, ça fait 200 pages, j'en veux 80 de plus. Et je te laisse 2 mois. Et là, ça a été le plus compliqué, en fait. Ça a été faire les 80 pages qu'il voulait en plus, dans les 2 mois qu'il me laissait pour le faire.
Pensez-vous écrire une bande dessinée un jour ?
Alors, il est vraiment très préférable pour les lecteurs que je ne dessine pas. Ce serait vraiment, vraiment souhaitable que je m'abstienne totalement de toute forme de dessin. C'est préférable pour l'art en général. Je suis né avec 2 mains gauches et je suis droitier du point de vue du dessin, donc c'est un désastre. Si j'essaie de dessiner un bonhomme, en gros, c'est maternelle deuxième année. Tu vois, le bonhomme tétard, là, avec les. Voilà, ça, c'est un drame. Alors après, effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on me dit ben Jungle Park, ça, parce qu'on m'a dit Jungle Park, ça pourrait faire un film. Donc je dis à chaque fois, oui, si vous avez le téléphone de Luc Besson, le passer, parce que Jungle Park, ça va coûter cher hein, à faire. Et on m'a dit, à Mulhouse, je rencontrais là des lycéens professionnels qui m'ont dit, mais il faut en faire une BD de ce livre. Et je leur ai dit, là, par contre, ouais, là, c'est un truc intéressant. Donc il faut que j'en parle à mon éditeur, j'ai pas encore eu le temps. Puisqu'ils font des BD aussi, il faudrait effectivement que j'en parle. Je pourrais faire un scénario de BD, ça je saurais faire. Le texte, je saurais faire. Bon, les vignettes, il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un d'autre. Hein. Mais ça serait sympa, j'aimerais bien.
Quels sont vos projets en cours d'écriture ?
Ben, je fais encore un truc que j'ai jamais fait, je suis en train d'en faire 2 en même temps. Donc il y en a un pour les plus petits, oui. Où j'essaie de raconter, alors mon éditeur me l'a renvoyé en me demandant de revoir tel truc, mais je pense que je vais y arriver. Il m'a dit, moi, mais tu vas te faire ça très bien. Je raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Zoé, dont le grand-père est atteint de la maladie d'Alzheimer, et il est enlevé par le propriétaire d'un cirque qui l'exhibe comme clown. Ouais, je sais, les auteurs sont un peu... Bon. Parce qu'en fait, l'idée de Pépix, c'est de présenter des histoires rigolotes. Et j'aime bien Pépix parce qu'en fait, la sorcière 13, c'est un truc dans lequel mes petits lecteurs me disent qu'ils rigolent beaucoup. Donc ça me plaît beaucoup. Parce que par contre, Exprime, on rigole pas beaucoup dans mes romans Exprime. Et donc j'aime bien parce que ça change. Et là, en fait, elle va se rendre compte que dans ce cirque, c'est un cirque dans lequel le directeur vole des enfants. Donc c'est le cirque des enfants perdus. C'est un peu comme Peter Pan, l'île des enfants perdus. Et elle va devenir leur amie et les aider à se libérer et libérer son grand-père en même temps. Je sais, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est un peu délirant. Ça appelait bien à mon éditeur comme idée. Et le roman Exprime, ça sera sur une esclave domestique. En fait, l'esclave domestique, c'est des jeunes filles qui sont... qui sont embarquées hors de leur pays natal, qui est en général un pays du tiers-monde, et souvent un pays soit africain, soit malgache, soit Madagascar. Souvent, c'est dans des familles, alors moins maintenant, mais au départ, il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à en parler vraiment, une quinzaine d'années, c'était des familles de diplomates, c'est-à-dire qu'ils étaient en poste dans un pays africain, et ils emmenaient avec eux une jeune fille en disant à leurs parents qu'elle allait faire des études, et qu'elle allait devenir riche, et qu'elle reviendrait... avec un diplôme et qu'elle pourrait aider sa famille. Et puis une fois arrivée en France, ils confisquent le passeport et ils la réduisent littéralement en esclavage. C'est-à-dire qu'elle elle doit du matin au soir et quelquefois une partie de la nuit travailler pour eux. Elle dort sur une paillasse. Elle est traitée, elle est maltraitée, elle est quelquefois violentée, voire violée. Et ça, c'est quelque chose qui existe à ce point qu'il existe un comité contre l'esclavage moderne, ce qui est une association française qui libère ces personnes-là aujourd'hui en France. Hein. Je dis bien que ça se passe aujourd'hui en France. C'est quelque chose qui arrive aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi des personnes qui se trouvent quelquefois, pas forcément d'origine étrangère, mais qui se voient confisquer leurs papiers d'identité et qui sont dans la même situation. Et donc le comité contre l'esclavage moderne assez régulièrement libère des jeunes femmes. Alors je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont dans la même situation, je pense que oui, mais j'en ai pas entendu parler, qui les libèrent de cette situation d'esclave en fait, quand elles arrivent à un moment donné à interpeller quelqu'un, parce qu'elles sont souvent interdites de sortie, donc elles sont coupées complètement de l'extérieur, elles n'ont plus de communication avec leur famille, et elles sont complètement à la merci des gens qui les exploitent. Et donc j'avais envie de raconter l'histoire d'une esclave domestique, depuis son enfance au Cameroun, jusqu'à ce qu'elle vienne en France avec une famille de coopérants qui peut-être au départ d'ailleurs est sincère, mais qui va très vite la réduire en esclavage, et même, comme elle est très belle et que quand elle quitte le Cameroun, elle a 13 ans, elle va avoir des problèmes lourds, mais dont elle va se libérer. Parce que ça, en revanche, mon premier roman raconte une histoire dont, dès le départ, on sent bien que ça va mal finir. Et donc, maintenant, je me dis, bon, j'écris quand même dans une collection où c'est des adolescents qui me lisent, j'ai pas envie d'histoires qui finissent mal, j'ai pas envie d'histoires désespérantes. Donc, elle s'en sortira, mon héroïne, d'une manière ou d'une autre. Mais avant de s'en sortir, elle va trinquer. Parce que voilà, j'aime bien parler en même temps, j'aime bien raconter une histoire dans laquelle je parle de la manière dont... qu'est-ce que c'est aujourd'hui être un être humain? C'est une grande question. Hein, et qu'est-ce que ça veut dire être un être humain avec les autres? Et à quel moment on cesse d'être humain avec les autres? Et qu'est-ce qui mène à ça? Et voilà, donc à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand certaines classes que j'ai rencontrées, ils me posaient la question, est-ce que vous croyez qu'on va arriver à construire des drones pour empêcher les Africains de sortir? Et je leur disais, mais c'est pas la peine. En fait, mes drones, c'est une métaphore. Tous les jours, il y en a qui meurent dans la Méditerranée aujourd'hui. Tous les jours. Tous les jours, il y a des barques qui naufragent en Méditerranée. Alors, de temps en temps, on en parle parce qu'on les récupère. Et puis, il y en a plein qu'on ne récupère pas. Il y en a qui meurent tous les jours. Donc, à la limite, mes drones, c'est juste une manière de parler de la façon totalement inhumaine dont on traite les gens qui, pour des raisons qui ne sont pas de leur fait, fuient leur pays ou fuient leur continent. La manière inhumaine dont on les traite. Donc c'est un peu ça que je vais remettre sur le papier avec mon histoire d'esclave.